BFM Bourse, on refait la séance.
Éric Lewin est rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Éric.
Bonsoir mon cher Guillaume, vous êtes en pleine forme, vous êtes bronzé, plus bronzé que moi d'ailleurs.
Oui, mais c'est...
Je suis assez énervé.
Va falloir retourner à Dubaï. Quoique, Dubaï,
il y a
des orages incroyables. Et puis on a découvert qu'il n'y avait pas de système d'égout.
Vous savez qu'ils font pleuvoir les nuages, en fait, c'est un phénomène un peu technique. C'est-à-dire, quand il pleut pas, quand il y a trop de sécheresse, ils envoient des espèces d'ondes, ce qui fait pleuvoir sur Dubaï. Et parfois, ils n'arrivent pas à juguler le système, donc c'est pour ça qu'il y a des inondations.
Enfin, bon, on précise à ceux qui prennent au premier degré, c'est du second degré, hein, bien sûr, c'est une plaisanterie. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas du... Ils n'ont pas provoqué cet orage, Eric.
Mais comme en général, ils peuvent provoquer des orages. Souvent, ils font ça. Non, non, c'est pas du second degré.
Non, mais d'accord, mais l'inondation, elle n'a pas été.
Cette inondation-là, non, mais parfois, je vous assure qu'il y a des choses bizarres qui se passent.
Bon. Éric, vous nous accompagnez effectivement, je vois Romain sourire à distance, vous nous accompagnez pour mesurer le potentiel des marchés. On démarre bien cette semaine, grosse semaine, 21 publications sur le CAC 40. Alors on interroge là-dessus nos auditeurs et téléspectateurs sur nos réseaux sociaux, notre Félix BFM Bourse. On vous demande à vous tous qui nous suivez si 21 publications d'entreprise sur le CAC rien que cette semaine, c'est pas un peu beaucoup. Est-ce que vous arriverez à tout suivre? Oui ou non? C'est la question qu'on vous pose. Vous arriverez à tout suivre, Éric, cette
semaine? C'est quand même des chiffres d'affaires trimestriels, donc ça n'a pas la même portée que des semestriels où c'est beaucoup plus compliqué d'interpréter les tendances, de voir les free cash flow, de voir tout ce qui touche la situation financière. Donc c'est surtout du chiffre d'affaires. C'est vrai que la semaine va être importante, mais elle va être aussi très importante aux États-Unis avec notamment les sept magnifiques, notamment Tesla, dont on se demande jusqu'où le titre pourrait baisser, parce que je regardais tout à l'heure Tesla avant de préparer cette émission. C'est quand même moins 40% depuis le début de l'année, avec une problématique de baisse des volumes, de baisse de la rentabilité. Ça sera intéressant aussi d'un point de vue économique. Il y a un PIB américain qui va sortir. Qu'on s'interroge sur le nombre de baisses des taux qu'il pourrait y avoir cette année. Il y a certains experts dans la presse américaine qui disent que peut-être cette année, il n'y aura pas de baisse de taux du tout. Il y aura, comme le soulignait Romain, un core inflation. Et puis, il y aura vendredi... Fitch et Moody's, je crois, sur la dette de la France. Alors que je regardais ça, ce qui est assez intéressant, c'est vrai que ça monte un peu sur le 10 ans français, mais franchement, j'ai l'impression qu'on s'inquiète beaucoup plus que ce qu'il ne faut sur cette dette française, parce qu'il y a une adjudication, c'était il y a 8 jours, d'une OAT, échéance novembre 2033, 3,5% de taux de rendement, et il y a eu 6 milliards offerts et 13,8 milliards de demandés, ce qui me fait dire que même si on a des problématiques de dette et de déficit budgétaire, je dis pas qu'il faut pas réduire la dette et qu'il faut pas réduire le déficit, je rentre pas dans cette problématique, mais on a le sentiment que les investisseurs sont un peu coincés, c'est-à-dire quand vous êtes une grosse caisse de retraite aux États-Unis, vous achetez quoi? Vous achetez de l'Allemagne, vous achetez de la France, quel que soit l'endettement, parce que vous vous dites que c'est sécure. Et quand on regarde les agences de notation...
Et si vous achetez les États-Unis sont beaucoup plus en déficit encore que nous.
Donc... Oui, mais les États-Unis, la problématique des États-Unis, c'est 82% de la dette américaine est détenue par des résidents américain. Donc on n'a pas ce problème. Je crois qu'en France c'est 48%, en Allemagne c'est 57%. Mais vous savez, les agences de notation, ce qu'ils regardent, c'est non seulement l'endettement, mais également la stabilité politique, la croissance économique. Il y a tout un ensemble de paramètres qui fait que moi j'ai pas le sentiment quand même que même s'ils dégradent la dette, il puisse y avoir un 10 ans français qui passe de 3 à 4% la semaine prochaine.
En tout cas, il est passé à 3%. Ça y est, les 3%, on a renoué avec les 3%, c'était cet après-midi.
Ah oui, mais quand vous avez
c'est simple, en Europe, le seul taux obligataire qui monte, c'est celui de la France. Les autres dettes souveraines,
c'est sûr, mais ça reste quand même maîtrisé quand vous voyez qu'on a une dette publique qui représente 110% du PIB et un déficit budgétaire qui est entre 5 et 6% du PIB.
Publication, 21 entreprises du CAC vont publier cette semaine. Je vous demandais au début si vous arriverez à tout suivre. Vous m'avez répondu non.
Oui, Franchement,
21 entreprises, vous n'arriverez pas à tout suivre.
C'est du côté des US que ça m'intéresse un peu plus cette semaine, dans la mesure où on a.
Donc vous arriverez à suivre les 21 entreprises du CAC, plus les entreprises US qui vont publier, enfin beaucoup vont publier cette semaine. Vous arriverez à tout suivre.
Vous pourrez m'interroger la semaine prochaine, puisque je serai là, je ne fais pas le pont la semaine prochaine, vous pourrez m'interroger. Non, mais disons que c'est, encore une fois, mon cher Guillaume, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas de la rentabilité. Oui. Maintenant, je regarderai surtout aux États-Unis. Je vous rappelle quand même qu'on attend une hausse des résultats du S&P de plus à peu près 30%, mais hors les 7 magnifiques, on est à moins 3,5. Donc ça sera très intéressant de voir ça. Et en France, c'est vrai, 21 publications, mais il y en a qui sont quand même plus intéressantes que d'autres.
Sur lesquelles vous êtes le plus optimiste sur les publications à venir?
Celle qui paraît la plus facile à décrypter, c'est Hermès. Hermès a un pricing power encore cette année. Ils peuvent augmenter les prix entre 8 et 9%. Hermès, on attend une croissance organique de l'ordre de 10%. Donc, je suis assez à l'aise avec Hermès, même si quand même, ça se paye 55 fois les bénéfices. Alors, vous allez me dire, oui, mais la qualité se paye en bourse, etc., etc. Jusqu'où ira Hermès? Mais c'est celle sur laquelle je suis plus à l'aise. Et mon interrogation... C'est ce fameux dossier, je crois qu'Aude Kersulek en parlait à 17h30 ou à 17h, je fais peut-être un distinguo qui n'est pas le bon, sur Kering, dans la mesure où il y a un mois, il y avait eu un vrai sales warning. Ils avaient dit qu'ils feraient moins 10% sur le chiffre d'affaires et moins 20% sur la Chine. Kering, il y a un dossier qui ne prend pas. Ça fait moins 40% en un an. Mmh. Ça vaut 14 fois les bénéfices et on a le sentiment de se demander à quand va s'arrêter la Gucci dépendance. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, pour redonner du lustre à l'action, de se vendre certaines activités? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vendre par exemple Saint-Laurent, Balenciaga à d'autres ou Bottega Veneta? Et en tout cas, il y a une vraie problématique autour de ce dossier Kering qui n'imprime plus. Et puis dernière chose, je regarderai aussi beaucoup Accor, parce que Accor, autant Alstom depuis sa sortie du CAC 40 gagne 18%, autant Accor depuis son entrée au CAC 40 perd 7%. Mais c'est souvent comme ça.
C'est
et donc c'est terrible, mais bon. Et donc je regarderai quand même le REFPAR, ce qu'on appelle le REFPAR sur Accor. Accor qui monte en permanence en gamme, avec notamment le Sofitel, avec sa marque Fairmont, avec Raffles. Donc c'est les trois publications que je vais regarder de près.
Raffles, on est à Singapour.
On est à Singapour. Ouais, c'est le fameux.
Ah non, on voit les connaisseurs.
C'est les fameux mythiques hôtels de Singapour qui a été refait. Oui. Et qui est vraiment très beau, mais enfin, je fais pas une publication pour les guides touristiques, donc c'est les trois publications que je vais suivre. Sur le reste, ouais, peut-être Renault qui a quand même une performance exceptionnelle depuis l'année et qui n'a pas très cher. Sur Renault, ce qui serait intéressant de savoir, si on a vu
Renault, c'est le carton de l'année, c'est la plus forte hausse du CAC depuis l'année. Est-ce qu'avec la publication, le titre arrivera encore?
C'est que la problématique dans l'électrique, ouais, j'ai envie d'entendre leur déclaration sur l'électrique parce qu'on a vu la semaine dernière, c'est sorti. Les ventes dans l'électrique, ça s'essouffle un peu partout en Europe. Donc, quelle est leur stratégie par rapport à ça? Voilà, donc les quatre publications que je suivrai de près avec, aux États-Unis, et j'insiste là-dessus, il faut regarder de très, 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 très près Tesla. On a le sentiment que c'est vraiment une descente aux enfers, que jour après jour, le titre ne cesse de baisser. Il y a beaucoup d'analystes qui n'y croient plus du tout. Est-ce que ça ne va pas être le moment qu'il va y avoir un espèce de rachat de short sur ce titre si la publication est plutôt bonne?
Tesla perd encore 4% aujourd'hui après l'annonce de nouvelles baisses de tarifs.
Moins 40% depuis, ouais, début de l'année.
Sur l'un de ces modèles, en France, pour le coup, la baisse de tarifs.
Mais en Allemagne aussi, en Chine, partout. En Chine partout, on est dans une logique déflationniste pour Tesla.
Et depuis le début de l'année, le titre perd effectivement plus de 40%. Alstom, oh, vous le disiez, Alstom, depuis qu'il a quitté le CAC, gagne 18% et encore 2% de hausse aujourd'hui après l'annonce d'une cession en Amérique du Nord. Est-ce qu'il faut renforcer encore Alstom?
Bah écoutez, ça commence à sentir bon pour Alstom. Bon, c'est un titre, je vais pas revenir là-dessus, ça perd 65% en 3 ans, je vais pas revenir sur la problématique. La problématique, c'est quoi? Il faut refinancer la dette, des contrats avec Bombardier qui avaient été signés, mais où ils perdaient de l'argent. Et là, il semble que ça va mieux. Alors sur la cession, c'est de la signalisation aux États-Unis. Oui. Je crois qu'on ressort sur 730 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien valorisé. Je crois que ça vaut 15 fois le résultat d'exploitation. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est que la capitalisation est beaucoup remontée sur Alstom. On est au-dessus des 5 milliards. Vous savez que la principale incertitude, c'était un, il faut céder des actifs, disons, ouais, 2 milliards.
La trésorerie,
et surtout,
quoi.
Y a-t-il une augmentation de capital? Et donc maintenant, on a le sentiment que s'il y a augmentation de capital, ça sera plutôt de 500 millions d'euros. Donc, versus 5 milliards de capi, ça veut dire que ça sera une mini dilution quand même pour les actionnaires.
Imaginons, on est en juillet, c'est l'Assemblée Générale d'Alstom. Elle aura lieu qu'en juillet, l'Assemblée Générale. Quelle question posez-vous au management?
Augmentation de capital.
Okay.
Vous avez besoin de combien? Et surtout, dernière chose, vous aviez annoncé l'an dernier un free cash flow positif. Finalement, il sera négatif. À quand un vrai free cash flow positif?
Romain, techniquement, Alstom, est-ce que vous sentez qu'après 18% de hausse, depuis sa sortie du CAC 40, le titre en a encore beaucoup sous le pied pour poursuivre son rebond? Il revient de très loin, ce titre.
À moyen long terme, probablement. À court terme, peut-être une pause dans une zone majeure qu'elle vient d'atteindre, qui est située entre 15,40 et 16,11. Il faudrait vraiment s'installer au-delà de ces niveaux pour poursuivre. Et dans ce cas-là, la cible suivante, c'est 19,40, qui est un très gros niveau historique pour Alstom. Si en revanche, et là les niveaux d'alerte sont plus loin, on repassait sous 14,26, là le risque serait un peu plus marqué d'invalidation de la sortie haussière et de reprise d'une tendance baissière. Donc on a probablement à court terme une petite pause, d'ailleurs une bougie d'indécision pour ce début de semaine, avec un petit corps et des grandes mèches autour, donc ça traduit bien l'indécision, mais un parcours haussier qui peut-être nécessite une pause à court terme.
Un petit corps et des grandes mèches autour. Ouais, c'est ça l'analyse technique. Et une question d'auditeur qui nous parvient à l'instant, alors que le CAC 40, on le rappelle, a un peu progressé ce soir en clôture. Il s'appelle Romain, il nous a écrit sur X tout à l'heure, sur le réseau X BFM Bourse. Que penser du titre GTT qui annonce une forte hausse de 80% de son chiffre d'affaires, mais dont le cours de bourse ne cesse de baisser? GTT, Eric.
Enfin, attendez, le cours de bourse ne cesse de baisser. Il avait connu une croissance stratosphérique. Il vient de perdre 10% en ligne droite. Ce qui est intéressant dans ce dossier GTT, c'est qu'il y avait Engie au capital qui est complètement sorti. Donc l'hypothèque que Engie va continuer à vendre n'est plus là. GTT, c'est une société qui s'occupe notamment, qui est dans le transport de gaz liquéfié. Ce qui est très intéressant sur ce dossier, c'est que la rentabilité opérationnelle est au-dessus de 53%. Je crois que c'est le groupe le plus rentable de la place de Paris. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette baisse? Pas du tout. Est-ce qu'il faut commencer à acheter? Je sais pas ce qu'en pense mon ami Robin Daubry. C'est peut-être lui d'ailleurs qui a posé la question pour se mettre en valeur parce qu'il en est capable. Oh. Mais
prénom, Romain.
Oui, j'ai un faux compte Twitter.
Non, blague à part, je pense que si le titre va sous 130€, ça me paraît un excellent call ce GTT. Ça vaut 14 fois les bénéfices, donc on peut y aller.
Vous savez, je reviens de Grèce. Hein. J'ai vu la Pythie là-bas. La Pythie, notre oracle, Romain, d'un point de vue technique sur ce titre GTT, c'est quoi le potentiel à vos yeux, là, les prochains seuils qu'il va falloir suivre pour les investisseurs?
Mais on a rompu un seuil technique, effectivement, une consolidation, mais après un très beau parcours haussier. Donc, ça fait maintenant plusieurs semaines, depuis le 26 février, que GTT était bloqué entre 135,70 et 143,30. Le titre rompt 135,70 aux clôtures. Aujourd'hui, ça donne comme cible un support majeur qui est situé à... Pardon, j'ai... un petit doute. Voilà, 128, je vais être précis, 128,30. La zone 128,30, 132,20 semble effectivement opportune pour reprendre une position sur un titre qui a un parcours nettement haussier. Ce serait invalidé sous 126,20, mais ça n'est qu'une consolidation dans une tendance haussière de long terme.
Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Et Christian qui nous appelle, qui joint à nous, Christian Fontaine depuis Le Revenu. Bonsoir Christian.
Bonsoir à tous.
On est ravis que vous vous joignez à nous, Christian, pour vous aussi répondre à nos auditeurs. Auditrice et téléspectateur, téléspectatrice, Marie nous interroge. Que me conseillez-vous pour mon compte-titre? Elle estime, Marie, que la fiscalité est trop pénalisante et elle envisage de fermer son compte-titre. Est-ce qu'on a des solutions pour elle, Christian?
Alors, bien sûr, surtout, Marie, ne fermez pas votre compte-titre. Par contre, vous avez raison, diversifiez vos enveloppes fiscales. Alors, c'est vrai, Marie, que la fiscalité au sein du compte-titre pique un tout petit peu, puisque elle se monte à 30% en tenant compte des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux. Et on va tomber en période de versement des dividendes et c'est 30% qui vont être directement prélevés à la source sur vos dividendes. Pour les plus-values réalisées par Marie cette année, les plus-values ne seront taxées entre guillemets que l'année prochaine. Alors les solutions, vous en parlez souvent sur votre antenne, Guillaume, et au revenu aussi, c'est bien sûr investir en bourse via des enveloppes à fiscalité privilégiée, PEA, assurance vie, plan d'épargne entreprise, ce qui permet de ne payer que entre guillemets 17,2% de prélèvements sociaux sur ces gains, donc vous faites quand même une économie de 12,8%, et surtout, vous ne payez vos impôts pas quand vous encaissez votre gain, mais quand vous retirez l'argent de votre enveloppe fiscale. Donc pendant tout ce temps-là, l'argent que vous devez aux organismes sociaux reste investi et font des petits qui tombent dans votre besace.
À l'instant, Eric réagit, et vous me demandiez, Eric, si on peut transférer ces actions d'un compte-titre ordinaire vers un PEA ou un contrat d'assurance-vie. Question d'Eric Lewin.
Ah oui, non, moi ça m'intéresse, parce que il me fait penser à Maître Capello, vous savez, Christian Fontaine. En fait, c'est plus le notaire de province, c'est vraiment Maître Capello.
Alors, la réponse, en fait, malheureusement, c'est non, en fait. Et c'est là, le conseil à Marie et à Eric Lewin, en fait, c'est d'y aller par étapes. Et la première étape, ça consisterait à ne plus alimenter son compte-titre. La deuxième étape, c'est que à chaque fois qu'elle encaisse des gains, par exemple, Marie, votre auditrice, elle pourrait non pas les dividendes qu'elle va encaisser ce printemps, non pas les réinvestir dans son compte-titre, mais les réinvestir dans son PEA. Et la troisième étape, c'est de spécialiser ses enveloppes fiscales, par exemple le PEA pour les actions européennes, et par exemple le compte-titre ou l'assurance-vie pour les actions internationales.
Merci Christian. Christian Fontaine en direct avec nous, directeur de la rédaction délégué du magazine Le Revenu, pour répondre chaque lundi aux questions que vous nous envoyez. Eric Lewin aussi nous accompagne.
Merci beaucoup.
Les publications
Agora. C'est un plaisir.
Partagez Eric, merci beaucoup de nous accompagner aussi fidèlement chaque lundi. On salue Romain Daubry également avec nous régulièrement depuis Bourse Direct. Bonne soirée les gars. Non, je ne sais pas pour vous.
Bon écoute, ça fait un peu les tontons flingueurs.
Mais... oui, on est d'accord. Bon, bref, bonne soirée à tous.